Rien n'est impossible à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter trois histoires. La première, elle a presque 4000 ans. La deuxième, elle a presque 2000 ans. Puis la troisième, elle a presque 13 ans. Moi, je sais, ça fait un peu ridicule par rapport à ces grands chiffres, mais ces trois histoires où Dieu a parlé. Ces trois histoires d'une rencontre, trois histoires de foi, en fait. Les trois histoires apportent graduellement un changement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce changement qui est opéré d'abord personnellement, dans les personnes qu'on va parler, mais aussi ce changement, il devient familial, il devient régional, il devient mondial. Et ces trois histoires demandent des pas de foi. Ces trois histoires demandent un don de soi. Et ces trois histoires demandent beaucoup, beaucoup de persévérance. Alors la première, c'est Abraham et Sarah. Vous avez remarqué, j'ai dit Abraham assez vite. J'ai pas encore mis le H, il viendra plus tard dans la prédication. Dans Genèse 12, il est dit que le Seigneur lui-même, l'Éternel, dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta famille, ta maison. » Et la maison de ton père. Et va dans le pays que je vais te montrer, et je ferai de toi un grand peuple. Quand tu reçois une parole comme ça de Dieu, tu fais quoi? C'est vraiment toi, Seigneur? Je dois vraiment tout quitter? Je dois vraiment partir? Je dois vraiment faire ce pas de foi? C'est Abraham et sa femme Sarah ont obéi. Leur pas de foi, c'était cette obéissance, et ils ont fait un départ définitif. Il y a aussi eu ce don de soi, parce que c'est vrai qu'Abraham, il avait quand même 75 ans quand il est parti de sa région. En fait, sa région aujourd'hui, elle est dans le Kurdistan, au nord de la Syrie, au sud de la Turquie, et il est parti jusqu'à proche d'Hébron. Abraham, il a aussi accepté dans ce pas de foi et ce don de soi de changer de nom d'Abraham à Abraham avec le H. Et il a aussi accepté, et je ne sais pas si je l'aurais fait, il a accepté d'être le premier circoncis de l'histoire. Et il a aussi persévéré, parce que ce chemin et ce départ de chez lui, ce chemin a duré quand même 878 kilomètres. Heureusement, il n'avait pas Google Maps pour savoir combien ça allait faire de kilomètres. Moi, j'ai vite fait une petite recherche. 878 kilomètres à pied, avec sa femme, avec ses enfants, là, il n'en avait pas encore, avec des cousins, des neveux, je ne sais quoi, et des frigos ambulants. C'était quoi, les frigos? C'était les animaux vivants qui gardaient avec eux jusqu'au moment où ils s'en occupaient pour devenir le souper. Donc, quand on reçoit un rêve, une promesse, la question depuis que je me suis converti, c'est, mais en fait, quelle est ma part dans cette action? Quelle est ma part et quelle est celle de Dieu? Alors, certains ont plutôt la tendance à donner tout à Dieu et dire, oh, moi, je fais rien, je prie, je laisse Dieu faire. Et puis d'autres disent, Dieu, il est quand même à nous rendre matures et capables et c'est à nous de tout faire. Puis quand on est vraiment coincé de chez coincé, c'est lui qui prend le relais. Mais quelle est notre part? Quelle est la part de Dieu? C'est ma question vraiment. Je vous rappelle cette promesse à Abraham. Il lui dit, tu engendreras un grand peuple. Ils étaient stériles. Ils n'avaient pas d'enfants. Alors Abraham, il est malin, hein. Il a commencé par faire quoi? C'était quoi l'action? C'était quoi ce qu'il s'est dit? Ça, c'est ma part. Il a gentiment fait l'amour à sa femme, quoi. Mais ça n'a pas marché. Pendant des années et des années, chaque mois, il y avait la déception. Chaque mois, il y avait le « Mais Seigneur, c'est impossible. Mais Seigneur, tu nous dis qu'on sera un grand peuple. » Puis ça ne marche pas. On essaye, on fait tout ce qu'on peut. Et à un moment donné, sa femme a eu une bonne idée. Bonne entre guillemets. Il a dit à Abraham, écoute, la promesse est juste, Dieu ment pas. Mais est-ce que c'est à travers moi, il t'a donné à toi la promesse? Alors peut-être tu peux aller vers notre servante qui est égyptienne, qui est bien plus jeune, Agar. Et Agar a tout de suite mis un fils au monde qui s'appelle Ismaël. Et moi, j'aimerais vous donner un petit conseil, si vous me permettez. Le conseil, c'est souvent le manque de foi apporte plus de tracas que la foi en elle-même. Le manque de foi en Dieu apporte des fois des chemins détournés qui nous font perdre beaucoup de temps et beaucoup de tracas. Mais du verset 12 au chapitre 18, il y a un petit écart là. J'ai juste un petit doute. Oui, c'est juste. Il y a un écart de 25 ans, il y a un écart de presque 1000 kilomètres. Il y a un écart de vie, presque une génération. Ils sont toujours stériles. Ils sont toujours pas dans la promesse. Et là, un matin, un beau matin, il faisait beau, il y a trois hommes qui s'appellent l'Éternel. Est-ce que c'est la Trinité? Est-ce que c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Je sais pas. Est-ce que c'est trois anges? Je sais pas. Est-ce que c'est trois hommes? Peut-être. Mais le texte dit c'est l'Éternel. Moi, je me demande si c'est pas la Trinité qui venait faire un tour sur terre. Et là aussi, Abraham a fait un pas de foi. Il est sorti de sa tente. Il a couru vers eux. Et il dit, mais c'est génial que vous soyez là. Bougez pas. On va vous faire à manger. Son don de soi, c'est la générosité. Il a tout de suite demandé à ses serviteurs de faire un repas. Il leur a dit, mais prenez 12 kilos de farine. C'est ce que j'ai vu dans ma Bible. Hein. Peut-être même 36. Je suis pas sûr si c'est 12 ou 36. J'ai pas bien compris. Mais bref, vous imaginez 12 kilos de farine. Ça en fait du pain pour trois personnes. Et il a aussi dit aux serviteurs, préparez un veau et de la crème et du lait. Il est généreux. Quand il y a un appel de Dieu, souvent il nous appelle à la générosité, à donner, à faire un don de soi. Puis la persévérance, parce qu'on dirait que ça a duré quand même pas mal de temps pour l'équipe de préparer ce repas. Et moi je pense que c'était une blanquette de veau hein, qui mijotait avec la crème. Ça devait être vraiment sympa. Mais ils ont attendu à l'ombre que le repas soit préparé. Au verset 10 de Genèse 18, il est dit, l'un des trois visiteurs dit, l'an prochain, je reviendrai chez toi, à cette même époque, à cette même saison, et ta femme Sarah aura un fils. Puis, juste derrière eux, en fait, Sarah, elle était maligne, parce qu'elle n'avait pas le droit d'être avec les gars, mais elle était juste derrière la tente, puis elle écoutait. Puis quand elle entend cet homme de Dieu, cette partie de la Trinité, peut-être Jésus lui-même, je ne sais pas, elle rit en dedans d'elle. Elle est là. Moi, enceinte, mais c'est pas possible, on a essayé, on a tout essayé, ça marche pas. Ça ne marche pas. Mais Sarah n'a pas ri parce qu'elle était une mauvaise femme. Sarah n'a pas ri parce qu'elle n'avait pas de foi. Mais simplement parce que c'était impossible. C'était impossible d'être enceinte. Au verset 11, il est dit, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah avait cessé d'avoir ses règles. C'est dans la Bible, hein, c'est précis, quoi. On trouve même dans le chapitre précédent, Genèse 17, qu'Abraham avait maintenant 100 ans et Sarah 90. Alors évidemment, c'était compliqué, hein. Je m'imagine dire à Sylviane quand j'aurai 100 ans et elle 90, bon, on a que quelques mois d'écart, mais et dit, voilà, on en refait un petit troisième. C'est pas tout à fait possible, non? Puis aujourd'hui, les jeunes, en voyant ces deux patriarches, ces papy et mamie, Abraham et Sarah, ils diraient peut-être, oh purée, t'as vu? Ils sont vieux de chez vieux, hein? Puis l'autre qui dit, ouais, puis Sarah, elle a monstre passé la Migrodata. Hein. Bref, c'était pas possible. Genèse 18-14, le messager de l'Éternel dit, est-ce qu'il y a quelque chose, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? C'est quand même fou, il dit ça alors qu'ils sont là les trois. Ils sont l'Éternel, ils sont trois, et ils disent, mais est-ce qu'il y a rien qui est impossible à nous-mêmes, au Seigneur? Et là, Dieu repromet une deuxième fois, 25 ans plus tard, il repromet une deuxième fois l'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Et vous et moi, on connaît la suite de l'histoire, hein ? Notre Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La promesse s'est accomplie. Ils eurent un fils et la promesse de l'Éternel s'est accomplie. Alors vraiment, vraiment, rien, mais rien du tout n'est impossible à Dieu. Deuxième histoire, presque 2000 ans plus tard, un peu la même région, deux familles. C'est l'ange Gabriel, cette fois-ci on sait que c'est lui, l'ange Gabriel qui rencontre et parle d'abord à Zacharie, le mari d'Élisabeth, puis à Marie, avec six mois d'intervalle. D'abord Zacharie, qui voit avec ses yeux et qui entend avec ses oreilles l'ange de l'Éternel. En fait, il est dans le temple, il s'occupe des parfums, et bim, il y a un ange qui apparaît, certainement grand, certainement baraqué, moi je n'en ai jamais vu. Et il lui dit, ta femme sera enceinte. Il rigole pas, Zacharie, mais il y croit pas. Il y croit pas. Elle aussi était stérile. Mais ce manque de foi, cette réaction de Zacharie, fait qu'il devient muet. Il rentre à la maison, puis la même chose qu'Abraham et Sarah, il propose à Élisabeth d'essayer de faire sa part, quoi, de faire l'amour avec elle. Puis aussi, il n'avait plus grand-chose à dire, hein. Il était muet. Résultat, Élisabeth, elle, est enceinte. Et elle a une réaction, Élisabeth, une réaction à cette parole de foi de l'ange. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache, elle cache sa grossesse. Elle a peur que quelqu'un le découvre et lui dise « Mais comment c'est possible ?» Elle a reçu la parole et elle se cache. Six mois plus tard, on a Marie qui reçoit aussi la visite de l'ange. Tadam ! L'ange qui arrive. Réaction de Marie, elle dialogue avec l'ange. Je trouve quand même assez fabuleux cette Marie, cette Myriam. T'as l'ange qui arrive. Là aussi, ça devait être un grand gars baraqué, impressionnant, peut-être même de la lumière, je sais pas, peut-être même des yeux avec du feu, je sais pas, un truc impressionnant. Et il y a Marie qui est assise là sur son lit qui dit, vas-y, raconte-moi un petit peu plus, j'aimerais bien qu'on ait une petite discussion ensemble. On peut avoir un dialogue, toi et moi. Elle dialogue avec l'ange. Et l'ange lui affirme encore une fois cette chose. Non, rien n'est impossible à Dieu. Et la réaction de Marie, elle est instantanée. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Oh waouh, moi j'aime cette réponse de cette petite jeune. Certains disent qu'elle avait peut-être 16 ans. Elle dit, Seigneur, moi, oui, je vois qu'il y a des impossibilités. Mais je sais qu'avec toi, rien n'est impossible. Alors quelle est l'action qui suit cette proclamation de foi ? Eh bien, elle va chez Élisabeth. Et en fait, elle fait un sacré bout de chemin pour aller rejoindre Élisabeth. Et qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Elle lui témoigne. Résultat, Marie est enceinte et elle parle, elle témoigne. Élisabeth et Marie eurent chacun un fils et la promesse de l'ange de l'Éternel s'est accomplie. Non, rien, mais rien du tout. Rien n'est impossible à Dieu. Et là, on fait encore un saut dans l'histoire de 2000 ans. On parle d'il y a 13 ans de cela. Un petit gars qui s'appelait Olivier, qui était à Sydney, en Australie. Et évidemment, cette histoire, elle n'est pas dans la Bible. Mais, en fait, j'ai écrit un bouquin pour essayer de l'expliquer. Alors, ce n'est pas la Bible, c'est un peu moins inspiré, mais c'est assez sympa à lire. Et en fait, on a quelques-uns de ces bouquins, même en allemand, en français, plusieurs autres langues qui sera à la sortie. On a un petit stand avec mon épouse. Ça, c'est le moment pub. C'est là où ceux qui ont absolument besoin d'aller aux toilettes, vous pouvez éviter d'aller aux toilettes, hein, ça dure 2 minutes. J'ai aussi écrit un roman où, en fait, je prends 5 personnages qui vont découvrir les 2000 ans de la résurrection de Jésus partout sur la planète entre 2029 et 2033. C'est assez sympa si vous avez envie de vous projeter un petit peu dans l'avenir. Et puis, j'ai reçu aussi il y a quelques années, ça c'est plus pour nos amis germanophones, une parole pour les pays germanophones. C'est juste une petite page. Si ça vous intéresse, vous pouvez prendre ça aussi au stand, parce que je crois que vous avez un appel particulier pour le monde, vous les germanophones. Puis la dernière petite pub, je vois que personne n'a été aux toilettes, vous vous retenez, c'est sympa. Midway Party, le 27 mars, sera très exactement le jour où j'ai reçu cette vision de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus à Sydney en Australie en 2007, et le jour où, Dieu voulant, comme on disait à l'église à l'époque, où elle va se réaliser partout sur la planète en 2033. On a fait le calcul combien il y a de jours entre deux, et le jour exact, c'est le 27 mars 2020. Donc on va faire la fête, on va faire une pré-fête pour célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Ça sera à Crissier, ça sera un vendredi soir, le 27 mars, vous êtes bienvenus s'il n'y a pas plus de virus. En fait, en 2007, j'étais en Australie dans un moment un peu comme ça. On était plusieurs centaines d'étudiants dans une école biblique à Sydney. Il y avait un temps de louange très fort, une présence de Dieu. Et je me tenais comme ça devant l'Éternel et tout d'un coup, j'ai l'impression que le ciel s'est ouvert. J'ai l'impression que je suis parti comme ça et que j'ai pu voir la terre en une seule fois. J'ai vu le soleil qui était caché derrière la terre venir devant et illuminer la surface de la terre graduellement, heure après heure. Et dès que ça touchait le sol, je voyais des éclats de lumière, des puissants éclats, explosions de lumière, mais c'était pas destructeur, c'était juste beau. Et je disais, mais Seigneur, mais waouh, c'est quoi ça? Et après, j'ai vu un groupe de gens rassemblés, des milliers de personnes de toutes les couleurs, de tous les âges, de toutes les régions et de toutes les églises. Alors, demandez-moi pas s'il y avait l'Ashtami ou l'église de la Frey, mais il y avait tous ceux qui confessaient Jésus. Et c'était tellement beau, tellement impressionnant. J'ai dit, mais Jésus, ils font quoi? Ils font quoi, ces gens? Et j'ai l'impression que Dieu m'a mis dans le cœur. Ils sont en train de célébrer les 2000 ans de la résurrection de Jésus. J'étais là. Et on va faire quoi alors? Et il va se passer quoi? Et c'est dans 26 ans? Mais pourquoi tu m'en parles à moi? Et j'ai vécu 3 heures absolument transformatrices. Et c'est ce que j'explique dans mon premier bouquin. D'ailleurs, vous pouvez l'avoir, le premier chapitre, gratuitement sur le site internet. On peut vous donner des cartes au stand pour lire comment ça s'est passé. Et j'ai reçu cet appel, cette vision dedans en me disant, mais Seigneur, quelle est ma part et quelle est ta part en fait? Qu'est-ce que moi je dois faire et qu'est-ce que toi tu dois faire? Qu'est-ce que les chrétiens doivent faire? Et je suis resté à Sydney encore 9 mois, un petit peu en gestation, hein, vous voyez, il y a toujours un petit reste. Un peu en gestation de se dire, mais Seigneur, c'est quoi le contour? C'est quoi la couleur? C'est quoi l'amplitude? Et je dois avouer que j'ai pas eu énormément de réponses. Il y a un certain flou autour de cela. Quelques années plus tard, je parle avec un prêtre catholique. Et il me dit, mais Olivier, il y a une chose que tu devrais faire, c'est étudier ce que les catholiques ont fait en l'an 2000 pour les 2000 ans de la naissance de Jésus. Je dis, ah bon, d'accord, où est-ce qu'on peut trouver ça? Il m'a dit, mais dans les archives secrètes du Vatican. Je dis, ah bon, vous avez des archives secrètes? Oui. Va voir, tu verras, nous avons fait une fête mondiale et tu peux certainement t'en inspirer. Mais tu peux aussi voir que certainement, nous les catholiques, on va faire quelque chose d'énorme pour les 2000 ans de la résurrection de Jésus. Alors j'étais titillé, j'ai essayé de me renseigner comment y aller. Je me retrouve à Rome quelques mois plus tard avec trois collègues et on s'inscrit pour aller visiter les archives du Vatican. Alors on arrive comme des grands, je savais qu'il fallait prendre notre passeport, je savais qu'il fallait prendre une photo, il fallait répondre tout un questionnaire, pourquoi on vient là, qu'est-ce qu'on cherche, tout ça. Puis on arrive devant la réception et ils nous disent non, c'est impossible, vous n'êtes pas catholique, vous n'êtes pas prêtre, vous n'êtes pas doctorant, vous n'êtes pas historien, c'est impossible, vous ne pouvez pas rentrer dans les archives secrètes. Puis on était tout déçus. On sort de là, et puis on se trouve dans un petit bistrot italien à boire un de ses cafés à 1 €. Et Martin Auger, mon collègue, dit, mais pourrions-nous prier? Ceux qui connaissent Martin, il parle très, très lentement, très réfléchi, très, très réformé comme ça. Il me dit, prions. Prions pour que Dieu ouvre les portes. J'étais là, ouais, allez, vas-y, prie, on y va. Allez, hop. Alors on prie dans ce bistrot. Et après, moi, je me dis, ah, mais moi, j'ai une meilleure idée. Ma part, ça serait peut-être d'aller sur la place Saint-Pierre, je prends mon iPhone, je fais une petite vidéo, puis je dis, les portes du Vatican sont fermées, priez pour que les portes s'ouvrent, et comme ça, on pourra aller visiter ces archives. Alors, on fait ça, on va à Saint-Pierre, et puis je fais cette vidéo, je la lance sur Facebook. On parle ça de 2016, novembre 2016. Et puis, un ami voit mon poste. Il m'écrit, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais à Rome? Puis je dis, voilà, archives secrètes, truc mûche. Puis il me dit, mais moi j'arrive demain. Est-ce qu'on essaie de se voir? Et je lui réponds, mais si tu viens demain, c'est parce que tu vas voir ton meilleur ami? Et il me répond, oui. Son meilleur ami, c'est Jorge Bergoglio, le pape François. Et je lui dis, Alejandro, ça fait 2 ans que je te bringue pour aller voir ton pote. Est-ce que ça serait pas le moment que je puisse aller voir le pape François? Qu'est-ce que t'en penses? Il me répond, je suis coincé à Miami depuis Buenos Aires jusqu'à Miami. J'ai raté mon avion, j'attends le prochain, je sais pas à quelle heure j'arrive. Je vais peut-être rater mon rendez-vous avec le pape. Et non, je crois pas que c'est le bon moment que t'ailles voir le pape. T'es pas dans le protocole. J'étais là, bon. Je fais une deuxième vidéo sur Facebook. Hop! Je dis, hé les gars! Priez, il y a une possibilité, toute petite, d'aller voir le pape pour lui parler de ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures plus tard, je me trouvais dans une toute petite pièce, peut-être grande comme ça, avec le pape François et avec Alejandro Rodriguez, un de ses meilleurs amis, qui est le responsable de Jeunesse en Mission pour l'Argentine depuis maintenant presque 30 ans. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que je crois qu'il y a ce processus de recevoir une promesse. La promesse que j'ai reçue, c'est que tout être humain sur la planète va entendre parler, lors des 2000 ans de la résurrection de Jésus, qu'il est ressuscité. Et en fait, la résurrection, c'est le point central de notre foi. On ne peut pas déroger la résurrection. Si on enlève la résurrection, il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien de se retrouver ici. La résurrection, c'est le point central. Depuis 2010, je voyage passablement sur la planète pour essayer de rencontrer des hommes et des femmes de Dieu, d'essayer de rencontrer des leaders d'églises nationales, d'églises continentales ou mondiales. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et je pourrais vous raconter des histoires, mais toute la journée, je pense que vous serez fatigué, mais j'ai rencontré presque tous les responsables internationaux des églises mondiales. Beaucoup, beaucoup de mouvements. Et si ça vous pique votre curiosité, vous pouvez aller sur notre blog. Il y a une trentaine de posts où en fait on raconte les gens qu'on a rencontrés, qu'est-ce qu'ils ont dit, quel est leur enthousiasme par rapport à ces 2000 ans de la résurrection pour l'annoncer au monde. Je dois vous dire qu'avec ces voyages, nous voyons, mois après mois, la promesse de Dieu qui est en train de s'accomplir. Je dois vous dire que nous voyons des chrétiens unir leurs forces pour être non seulement une bénédiction pour ce monde, mais aussi pour annoncer la résurrection au monde. Et nous avons le privilège de voir sur tous les continents, des réveils. Des hommes et des femmes qui se tournent vers le Dieu de l'éternité. Qu'il est bon de voir des hommes et des femmes se tourner vers Dieu. Alors non. Alors vraiment, non. Rien n'est impossible à Dieu. Ma conclusion est celle-ci. Sarah, Abraham ont eu un appel, un rêve, une promesse. Élisabeth, Zacharie, Marie, Joseph ont eu un rêve, une promesse, un appel. Et toi, quel est ton rêve? Quel est ton rêve et comment est-ce que tu y réponds? Quel est ton rêve? Est-ce que c'est bien possible que ça vienne de Dieu, en fait? Il y a ce texte dans Philippiens 2, 13 qui dit « Dieu travaille en nous le vouloir et le faire. » Dieu a mis des choses en nous, peut-être même quand on était gamin ou quand on a vécu certaines choses et des moments particuliers dans la foi, des choses précises qu'il a envie de te dire, mais ça c'est ton appel, ça c'est ta promesse, vas-y, fais ta part, je ferai la mienne. Quel est le rêve que Dieu a mis dans ton cœur? Et puis quand tu as reçu ce rêve, cette promesse, quelle fut ta réaction? Est-ce que ta réaction c'était comme Sarah, tu as ri? T'étais là, mais c'est pas possible. Ou alors comme Zacharie, t'as douté. Ou alors comme Élisabeth, tu t'es caché, tu l'as dit à personne. Ou alors comme Myriam, Marie, tu as témoigné, t'as dit, hey, pasteur, j'ai reçu ça, t'en penses quoi? Hey, papa, maman, voilà le truc qui est en train de grandir en moi, t'en penses quoi? Quels sont les pas ou les actions que tu dois faire ou que tu as fait dans la direction de ce rêve, dans ce rêve impossible? J'ai reconnu plusieurs jeunes qui ont grandi maintenant, qui sont là dans la salle, avec qui on a fait des camps ou même des soirées. Et souvent je dis aux jeunes, quand tu reçois un rêve, quand tu reçois un appel, quand tu reçois une mission de Dieu, le chemin le plus court et le plus sûr, c'est l'obéissance, le plus vite possible. C'est l'obéissance, comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Alors je termine ici en disant, gardez pas ce rêve juste enfoui. Ne restez pas silencieux. Faites votre part. Et Dieu va faire la sienne, sa part à lui.